Ouais, d'abord, reste. Juste qu'on reste sur ça d'abord. Ah, d'accord. Alors, après un peu moins de 6 mois, je me retrouve enfin de nouveau parmi vous, et ça fait plaisir. Beaucoup d'entre vous savent où j'étais, d'autres se posent la question. Alors, tout a commencé l'été passé, lorsque j'ai décidé de faire une école de disciples dans le cadre de Jeunesse et Mission, comme Pascal a dit, à Lausanne, en Suisse. Ça, c'est d'ailleurs la maison. Et ça fait partie de l'Université des Nations, c'est pour ça que vous voyez le U of N, University of the Nations. Alors, c'est une école qui consiste à former des vrais disciples du Christ en s'appuyant sur la parole, la Bible, et la relation personnelle que chacun peut avoir avec le Seigneur. Les 3 premiers mois sont très théoriques. Chaque semaine, nous avions un thème différent. Mais à la fin, réunis, ils englobent tous l'aspect de la vie chrétienne. En fait, il y a par exemple écouter et distinguer la voix de Dieu, le pardon, la repentance, la guerre spirituelle, le cœur du Père, la nature et le caractère de Dieu, notre identité en lui, etc. Les 2 mois suivants servent à mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Là, on parle de ministère dans un pays étranger, bah, comme Pascal l'a dit encore. Dans mon cas, c'était l'Égypte. On fait quoi? On évangélise dans les rues, dans les parcs, soutenir les églises locales, on vient en aide aux veuves et orphelins, ainsi qu'aux réfugiés et pauvres, tout en se laissant utiliser par le Saint-Esprit quand il veut se servir de nous. Je ne vais pas vous cacher, c'était intense comme période, surtout la phase pratique. Pour l'aspect d'évangéliser, nous avons déjà eu un avant-goût un peu à Lausanne, parce que tous les mercredis, on allait dans les rues justement parler de Jésus et servir du chocolat chaud, proposer du chocolat chaud pour initier une conversation. Au début, ça m'a un peu surpris parce que je ne pensais pas que les Suisses étaient ouverts à l'évangile, mais ils étaient très réceptifs, ils voulaient entendre parler, ils voulaient connaître notre opinion, ils voulaient savoir pourquoi on est si heureux, pourquoi nos visages sont si illuminés, c'est quoi, ce qu'on suit, etc. Et les mots, en fait, pour ceux qui ne savent pas, moi, c'était ma première fois vraiment évangéliser. J'ai fait ça une fois ici en Belgique, mais sinon, vraiment aller vers quelqu'un, ouvrir une conversation et commencer à parler à, voilà, Jésus, notre Sauveur, etc. C'était ma première fois. Et j'ai vite remarqué qu'en fait, les mots commençaient à couler et que Dieu voulait vraiment dire beaucoup de choses à ces personnes à qui il tenait vraiment. Notre communauté a même organisé une fête de Noël, un spectacle en quelque sorte, un concert de Noël où on a chanté des cantiques. Non, pas un cantique, pardon, des cantiques. Une courte prédication sur ce qu'est Noël. Et la possibilité de témoigner à une grande foule qu'un sauveur nous est né. Ça, c'était aussi un grand événement. Beaucoup de choses se sont passées au cours de ces 5 mois et c'est un peu difficile de tout vous raconter maintenant, sinon je vais prendre la place de Pascal pour la prédication et ça, à mon avis, ça va le faire. Mais j'aimerais partager vraiment quelques moments avec vous qui, moi, m'ont marqué personnellement et vous témoigner du changement que Dieu a opéré dans mon cœur déjà. On va commencer au début, on va faire dans l'ordre. Pendant la phase d'études, j'ai vraiment pu voir Dieu le Père d'une manière différente et lui découvrir des traits de caractère que je connaissais peut-être en théorie, j'avais déjà entendu parler, ou je voyais autour de moi des personnes qui pratiquaient ça chaque jour, mais que moi, je ne connaissais pas personnellement. Et je ne saurais même pas vous décrire le sentiment que ça fait, c'est juste beaucoup. C'est juste une révélation, une espèce de révélation qui, tu es certain, tu sais ce que tu as vécu à ce moment-là et tu n'en doutes plus. Et cela m'a permis de ne plus vivre dans la peur d'un Dieu, comment dire, je vous dirai après que comme je viens d'un passé, je veux dire, religieux assez, c'est des doctrines assez conservatrices, je voyais Dieu comme un peu strict, peut-être, un père demandant, alors qu'il n'est pas du tout comme ça. Et Donc le fait d'avoir été là-bas et avoir appris toutes ces choses, je pense que ça m'a permis justement d'ouvrir les yeux et de me dire que non, c'est pas comme ça. Et Dieu, il est amour avant tout. Et je peux, comment dire, marcher avec lui librement et sans crainte, justement. La crainte du Père, mais sans peur. Ce qui m'a plus fascinée avec Dieu là-bas, c'est sa patience. On était 25 élèves et chacun évoluait à sa manière et à son rythme. Et Dieu avait la patience avec nous tous. Il n'y avait pas vite. Tout ça, c'était vraiment quelque chose. Il nous a laissé le temps de guérir, s'améliorer et surtout marcher droit à la fin. Nous avons eu beaucoup de soirées de prière, beaucoup de classes de prière, on peut dire aussi, des moments de louange vraiment sans nombre. Je ne peux même pas compter combien de moments de louange on avait. On mettait la louange, on était tous debout dans la classe, à genoux, ou certains pleuraient. Vraiment des moments vraiment intenses avec le Saint-Esprit et en classe. Et le soutien aussi de nos leaders, qui étaient toujours là pour nous, jour et nuit, pour prier. Ils priaient pour nous chaque matin, ils se levaient tôt le matin, avant les classes, pour prier ensemble pour nous. Tard le soir, ils se couchaient tard pour encore se réunir et prier pour nous. Et ils étaient vraiment impliqués dans notre vie spirituelle, prenaient soin de nous. Et le tout, on enregistrait dans un journal intime, on peut appeler ça, oui, un journal intime, hebdomadaire, qu'une seule autre personne pouvait lire, c'est-à-dire celui ou celle qui était responsable de nous. Donc pour les filles, c'était une fille, pour les garçons, c'était un garçon. Ce qui m'a également fortement marqué, c'est comment Dieu utilise même des hommes et des femmes pécheurs, tels que nous sommes, pour son royaume. Il laisse vraiment, si nous on se laisse utiliser, il est là et il veut. C'est notre choix. Est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit? Du moment, et ça c'est une chose que encore j'ai appris et qui m'a fortement marqué, du moment qu'on réalise que ce n'est pas par nos propres actes qu'on est sauvé ou qu'on a un mérite devant Dieu, mais que c'est ce que Christ a fait à la croix, là, c'est comme un déclic dans sa tête et dans son cœur que, voilà, en fait, Dieu veut nous utiliser et il nous utilise sur le terrain et partout. Une des semaines, on parlait de, justement, notre identité en Christ, et c'était vraiment une semaine formidable qui m'a permis justement de faire ce déclic-là et de m'ouvrir au Saint-Esprit. Chaque semaine était en soi unique. On avait, comme je vous ai dit, différents thèmes et chacun des thèmes nous permettait vraiment de nous rapprocher de Dieu. On lisait beaucoup la Bible. Encore toutes les semaines, on avait un livre qu'on devait lire comme devoir, on va dire, parce qu'on avait aussi des devoirs à rendre. Et je pense que cette discipline de lire la Bible tous les jours, parce que voilà, comme c'était parfois des gros chapitres, parfois des chapitres plus courts, méditer la parole et vraiment passer ils appellent ça des quiet times, c'est-à-dire des temps silencieux avec Jésus, et ça m'a vraiment donné un désir de poursuivre ça une fois que je serai de retour. Et oui, c'est encore un changement, une belle discipline qu'ils ont instaurée en moi. Je vous disais justement que Dieu utilise les gens qui le cherchent de tout cœur et qui désirent vraiment lui obéir et être à sa disposition. Moi, personnellement, je suis partie là-bas pour purifier mon esprit, me retrouver après une année très très lourde pour moi, une année de malaise. Beaucoup d'entre vous savent, j'étais à l'université, ça s'est pas bien passé. En tout cas, même ma vie personnelle, pas juste l'université, mais même ma vie personnelle, c'était pas très joyeux. Et donc, j'avais pris ces décisions justement en rapport avec ça. Je me suis dit, je dois faire le vide, je dois me rapprocher du Seigneur avant. Et Dieu avait prévu ce temps-là pour moi, depuis longtemps, ce que je ne savais pas à ce moment-là. Mais juste pour vous dire comment il a agi et comment il est grand, comment il a fait les choses. En fait, quelques mois avant de prendre cette décision-là, j'avais fait un rêve. Et je me retrouvais dans un village comme ça, pittoresque, très beau, briques partout, très très beau, à côté d'une rivière, et je ne comprenais pas, mon rêve était en allemand. Je me dis, mais je ne pratique plus l'allemand, je ne pense pas en allemand, comment ça se fait que mon rêve est en allemand? Je ne comprenais pas. Mais figurez-vous en fait que j'ai visité ce village-là. Lors de notre journée de prière en Suisse, on s'est réparti en petits groupes et on était parti à travers tout le pays pour couvrir le pays de prière. Et justement, le dernier village où nous on était, mon équipe était, c'était vraiment l'endroit de mon rêve. Et je suis restée scotchée, tout le monde était là, quoi, non, c'est pas possible. Je dis, si, et j'ai commencé encore à écrire dans mon journal, petit à petit, pour me rappeler de tout ça. Mais ça, c'est juste un des exemples comment Dieu a préparé le chemin pour que moi j'aille là-bas. Ma phase pratique en Égypte, là, on était divisé en deux groupes de 12. Dès que je suis arrivée là-bas, je me suis sentie comme chez moi. Ça ressemble beaucoup à la Roumanie, je trouve. Je ne sais pas, il y a une atmosphère, les rues, la disposition des bâtiments, tout ça, ça ressemble beaucoup à la Roumanie. J'avais peur au début d'avoir un choc culturel ou un choc, je ne sais pas, il fait trop chaud ou trop raide ou je ne sais pas. Mais non, en fait, j'avais rien de tel. J'ai longtemps prié pour le peuple égyptien et je me rappelle avoir demandé à Dieu un cœur pour eux. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Je commençais à ressentir comme une tristesse, voire peut-être une pitié, mais vraiment accompagnée d'une vague d'amour pour eux. Et d'un coup, je voulais évangéliser tout le monde. Hein. Mais on avait des timings, mais d'un coup, je voulais, allez, oui, Jésus, par là, oui, voilà, je crois et tout. Et c'était assez impressionnant, parce que justement, j'avais jamais ressenti un truc comme ça avant. Comment Dieu partage son cœur pour quelqu'un d'autre. C'était un désir brûlant qu'il avait installé en moi pour eux. Les ministères étaient donc les moments décisifs où ça passait ou ça cassait. Parce que, voilà, avec le peuple musulman, soit tu t'introduis et tu peux leur parler, tu es assez sympathique à leurs yeux, soit ils te cassent directement et ils commencent avec leur religion, quoi. Donc notre préparation au ministère, je ne vais pas dire tous les matins, mais tous les le second jour, on se préparait, on faisait des danses, on préparait des pièces de théâtre, des mimes, parfois des contes pour enfants, mais surtout préparation fervente dans la prière, toujours, on partait pas sans prière, même dans la voiture, parce qu'on avait une voiture pour nous, enfin un petit van comme ça pour nous. Même là, on commençait à prier tout le monde à haute voix, un là, un par là, chanter des cantiques, voilà. Et c'est comme ça que Dieu faisait des miracles, en tout cas. Je vais vous montrer quelques exemples en photo. Francesco. Ok. Ça, c'est le ministère des enfants de la rue. En fait, pas tous sont orphelins, mais leurs parents les ont abandonnés, déficit financier ou juste grossesse non désirée, voilà. Il y a plusieurs histoires. Il y a même un des enfants qui a son jumeau a été tué par son propre frère pour trafiquer les organes, etc. Franchement, c'est des histoires, oui, atroces que tu entends, très très tristes. Et on passait un jour par semaine là-bas avec eux. Qu'est-ce qu'on faisait? En fait, là, on pouvait pas dire le nom Jésus ou carrément leur annoncer l'évangile parce que c'est un cadre musulman et la personne qui les finance, qui est une personne très très riche, elle est musulmane, enfin c'est un homme musulman et il ne voulait pas qu'on dise voilà on est chrétien, mais il savait qu'on était chrétien parce que sur notre van il est marqué Jésus en grand, donc il savait très très bien qui on représentait, d'où on venait, ce qu'on faisait, mais c'est juste qu'on ne pouvait pas leur annoncer l'évangile tel quel, mais on pouvait l'introduire dans un petit sketch ou une petite histoire avec une morale, etc. Et on faisait beaucoup de jeux avec eux. Mais l'important pour eux, c'était d'avoir de l'affection. Ils avaient des gens là-bas, mais c'était des gens qui étaient payés, employés. Et ce n'était pas vraiment du bénévolat. Nous, on était là en tant que bénévolat. Et je pense que le fait qu'on venait leur montrer l'amour, est-ce que c'est de jouer avec des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui vous aiment carrément, ça oui. Vous voyez, ils rigolent, ils sourient. Et à chaque fois, ils attendaient notre arrivée. À la fin, je ne vous dis pas ce que ça faisait quand c'était le dernier jour. Voilà, ça coulait partout, tout le monde. Tu peux montrer, je pense, les deux autres. Voilà, ça c'est Mahmoud. Il est, oui, il m'a demandé en mariage. Je ne rigole pas. Il m'a carrément dit. Franchement, c'est un de, je ne vais pas dire préféré, mais celui vraiment avec, à qui je me suis attachée et qui s'est attaché à moi. On se promenait, il aimait beaucoup la promenade, donc main dans la main, on se promenait, on faisait des tours et on essayait de se débrouiller, moi en français, en anglais, lui en arabe, voilà. Je connaissais quelques petits mots d'arabe, mais sans plus. Et on essayait de se débrouiller parce qu'on n'avait que deux traducteurs à chaque fois au ministère. Et voilà, vous imaginez bien avec une cinquantaine d'enfants, c'est pas facile. L'autre? Ah voilà, ça c'est encore quelques autres exemples des enfants. Je me rappelle de Saïda, la fille ici à droite, en haut. Saïda, un jour je chantonnais une chanson parce qu'on a appris combien Dieu est grand en arabe. Et je ne sais pas pourquoi je chantais, j'avais ça en tête. À mon avis, on l'avait chanté ce matin-là ou je ne sais pas. Et elle a demandé, mais tu chantes quoi là? Donc elle a pris un traducteur et eux, ils connaissaient un peu d'anglais, les bases. Hein, donc je dis, mais c'est quoi? Et elle dit, mais chante pour moi, chante encore plus pour moi. Et j'ai commencé vraiment à chanter à haute voix. Elle a entendu, et une dizaine d'autres enfants ont entendu la chanson-là. Et en fait, en arabe, Allah, vous voyez, on peut dire que c'est le Dieu de l'islam, mais en fait, non, Allah, c'est vraiment même Dieu. Donc, même les chrétiens en Égypte, ils disent Allah. Et donc, elle a vraiment été fortement touchée par le fait que je connaissais cette chanson en arabe, ce qui était vraiment unique comme moment. Et elle m'a dit merci. Elle m'a fait un grand câlin. Elle m'a dit merci d'avoir partagé ça avec elle. Elle est très croyante. Elle est très impliquée. Et à mon avis, elle cherche quelque chose, mais elle sait pas comment trouver. D'accord. Voilà, le ministère Coffee Shop. Ça, c'est juste quelques exemples, parce qu'on a fait tellement de ministères. On a fait, je pense, 18 ministères, un truc comme ça, différent. Coffee Shop. Ça, c'était dans le cadre de l'église coptique. Vous voyez un père là-bas, un prêtre au milieu, là, juste derrière moi. Et en fait, ça c'est un système, si vous voulez, c'est un jeune homme qui était récemment converti au christianisme et qui a créé en fait un café avec un concept chrétien. En fait, c'était dans un quartier musulman, mais c'est un concept chrétien. Donc les chants sont chrétiens, on voit bien, ils fêtent Noël. Que les musulmans ne font pas, ils fêtent Noël, ils mettent des autocollants sur les vitres et tout ça. Donc ils savent très très bien, tout le quartier sait que c'est chrétien. Et certains musulmans viennent. En fait, là, ce qui est intéressant là, les tables, en fait, elles sont arrangées de telle manière à ce qu'on entende les conversations des autres tables. Donc vous voyez, quand des chrétiens viennent, ça c'est une table, et commencent à parler de Jésus et tout ça, un musulman de l'autre table, il commence à entendre, ah mais c'est quoi ça? Et voilà, et en fait, c'est comme ça qu'ils introduisent et qu'ils commencent à évangéliser. L'autre. Voilà. Beaucoup de prières autour et dans les mosquées. Oui. Vous allez voir dans les vidéos, on a fait beaucoup de prières dans les mosquées et autour des mosquées. On sentait souvent une tension tellement forte et une opposition tellement forte. Mais ça, c'était vraiment les moments où on ressortait. Vous voyez l'image là qu'on dit, on entre dans la prière comme des chatons, mais on ressort comme des lions. C'était exactement ça qu'on avait là. C'était au début, oui, c'était difficile parce qu'on ne savait pas comment gérer. Mais justement, parce qu'on se préparait dans la prière le matin même, ou la veille, ou même les deux, ou même dans le van et tout ça, on avait vraiment uni, on pouvait vraiment faire quelque chose contre les ténèbres à ces lieux-là. Je pense... Non, il y a rien d'autre entre? Non, reviens alors. Merci. Un des exemples que je voulais vraiment partager, c'est on est entré, c'était je pense la première fois qu'on est entré dans une mosquée. On était un groupe de filles, quatre filles. On a mis une petite écharpe pour pas entrer comme ça, par respect. Et il y avait une dame qui pleurait avec son bébé dans les bras. Et le bébé, il avait que 2 ans, c'était une petite fille qui avait en fait le cancer. Et la madame, elle voyait que nous, on priait, on se mettait à genoux, on priait, mais bien sûr, on priait pas, on priait Jésus, notre Jésus. Et je sais pas comment Dieu l'a touchée, qu'est-ce qui l'a impressionnée en nous. En tout cas, elle nous a permis, en fait, de nous approcher de sa fille et de prier pour elle. Et on a même imposé la main à la fille, on a commencé à prier. Si vous connaissez le monde musulman, ça ne se fait pas. Ils ne laissent jamais, jamais imposer les mains. c'est pas un truc qu'ils font, c'est pas un truc qu'ils pratiquent. À la limite, ils pourraient même croire que c'est de la sorcellerie ou quoi que ce soit, mais jamais ils font ça pour une prière. Et donc la maman a été vraiment touchée, et je pense, et je suis convaincue, on n'a eu pas de nouvelles après, mais je suis convaincue que la fille a été guérie. Parce qu'on a, vraiment, c'était quelque chose de très fort qui s'est passé à ce moment-là. Et même notre leader, qui est lui-même égyptien, il a dit, vous vous rendez pas compte des faveurs que vous avez eues dans ce pays. Le peuple égyptien, c'est pas, il est pas mauvais, il est accueillant, mais il est très méfiant. Et surtout de par l'islam, ils savent ce qu'ils veulent. Et à la limite, ils veulent te convertir, toi, vers leur religion, que le contraire. Et donc, il a dit, vous ne vous rendez pas compte des faveurs que vous avez eues. Ça, il n'a jamais vu ça. Aucune équipe. Toutes les équipes qu'il a amenées là-bas, il n'a jamais vu ça. Tu peux toujours rester sur le même. D'autres lieux de prière qu'on a eu, quelques exemples, je n'ai pas mis en photo, mais on a fait sur le Nil. Si vous savez, le Nil, il y a un débat maintenant. 7 différents pays veulent se procurer le droit d'extraire de l'eau du Nil et tout ça. Et ça, c'est la source la plus importante, si pas la seule, de l'Égypte. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment une crise qui pourrait arriver en Égypte s'ils ne savent plus se procurer de l'eau. Et on a prié pour les politiciens à ce moment-là parce qu'on est, on est passé à côté du quartier downtown, quoi, du quartier business. On a prié pour... le Caire, tout le Caire, on est monté sur une espèce de colline, on voyait vraiment tout le Caire jusqu'aux pyramides, tout loin là-bas. Et on a prié, on a passé vraiment un temps de louanges et de prières là-bas. On a visité beaucoup de bidonvilles, qui connaissaient des villes de poubelles, entre guillemets. Et la Cave Church, elle est aussi dans une de ces villes. Oui, beaucoup. On a beaucoup prié pour la propreté, un système, de l'ordre, etc. On a visité la Cave Church aussi, bien évidemment. Et il y a une histoire qui m'a vraiment impressionnée. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Simon. En fait, c'était au tout début, avant que la Cave Church soit créée, un homme très très humble devant Dieu, justement nommé Simon, par ses prières, il a fait bouger toute la colline parce qu'ils avaient des problèmes avec les autorités. Et les autorités, qui étaient musulmanes à cette époque déjà, et on dit si votre Dieu est vraiment Dieu et s'il existe, vous faites bouger la montagne. Et la montagne a vraiment bougé de 3 km. et ils l'ont laissé. Et ça, c'est une des histoires qu'ils mettent en fait, qu'ils ont peint sur les murs, justement pour garder et voir, enfin, et dire ce que Dieu a fait comme miracle et qu'il était de leur côté. Avant de terminer, j'aimerais aussi vous montrer... Ah, peut-être pas l'autre. Ah, voilà, excusez-moi. Un des derniers ministères, c'était le ministère des réfugiés soudanais. En fait, là-bas, sur place, ils ont une espèce d'église, un bâtiment. Jeunesse en mission a un bâtiment qui est le centre soudanais, oui. Là-bas, on a fait des classes d'anglais, on a donné des cours d'anglais, des études bibliques, tous les vendredis des études bibliques, et des cours de guitare. À côté de ça, avec le Soudanais, on a fait des visites de maison, on a porté de la nourriture. C'était tous des chrétiens, donc on venait les encourager, prier ensemble, chanter. Vraiment, ils étaient vraiment beaucoup été touchés parce que nous venions avec un encouragement, nous venions avec une histoire, avec un témoignage, et on recevait aussi. C'était vraiment des chrétiens qui se rassemblent et qui louent Dieu ensemble et qui se réjouissent. Et maintenant, je pense que c'est les deux vidéos. Je vais... Non ? Normalement, ça doit commencer dès que tu passes le slide. Trois minutes, je pense. C'est des courtes vidéos. Non, c'est des courtes vidéos normalement. D'accord, merci. Je savais, j'allais dépasser le temps, je suis désolée. Non ? Ah, dommage. Dommage. C'est pas grave. Voilà.